On le reçoit avec grand plaisir en ce vendredi, Carl Bélanger. Allô, Carl.
Salut, Rock.
Ça va?
En pleine forme.
Ouais, parle-moi de ça. En tout cas, c'est assez mollo sur la scène fédérale, sauf qu'il y a des caucus.
Il y a eu des caucus cette semaine. Il y en a eu deux.
Les libéraux ont dit que c'était pas un caucus. Ils ont décidé de prendre un autre terme parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas élus qui étaient dans le meeting. Donc, par définition, on a décidé que c'était pas un caucus.
Ouais, ben écoute, tu peux essayer de choisir le terme que tu veux. Là, la réalité, c'est que c'est les députés qui se réunissaient pour la première fois depuis l'élection. Et ils ouvraient la porte aux députés qui étaient défaits.
C'est ça.
Donc, c'est comme un caucus de transition, appelons-le comme ça.
C'est ça. On commence avec eux?
Commençons avec eux, si tu veux bien.
Alors, oui. Les libéraux de M. Trudeau se sont rencontrés pour la première fois. Qu'est-ce qui en ressort? Moi, il me semble qu'il y a une couple d'affaires. Notamment, j'ai apprécié, ou en fait, j'étais mêlé avec le discours de Marc Garneau. Parce que tout le monde dit...
Toi aussi?
Oui. Tout le monde dit, ah, il faut apprendre de nos leçons, puis il y a eu des leçons dans l'élection. Mais personne ne dit, c'est lesquelles ces leçons-là?
Oui. Mais écoute, le Parti libéral se trouve dans une position particulière, parce qu'on avait une majorité, et on a gagné le gouvernement, mais avec une minorité. Ce qui veut dire qu'il y a clairement des choses qui n'ont pas fonctionné, surtout que lorsqu'on recule l'horloge puis qu'on retourne en janvier 2019, au début de l'année, on s'en allait vers une deuxième majorité. Là. On se retrouve avec une minorité. Ça n'a pas été facile. Ils ont perdu le vote populaire. Ils ont perdu beaucoup de votes au Québec, des sièges. Il y a eu la montée du Bloc québécois. Alors, on se pose des questions. Le Parti libéral n'est pas en position de remettre en question le leadership de Justin Trudeau. Alors là, il faut trouver des réponses ailleurs. Il y aura des changements au sein de la garde rapprochée de Justin Trudeau. C'est déjà commencé.
Ah oui?
C'est déjà... Gerald Butts, qui était parti, qui était revenu, il ne reviendra pas. Là.
Non.
C'est en fait un. Il y en a d'autres qui sont... Il y a des rumeurs, ça grenouille. Quand on ne peut pas viser le chef, on vise ailleurs. Et c'est intéressant parce que dans le cas d'Andrew Scheer, c'est le chef qui est visé. Alors, on verra comment lui va réagir. On en parle dans quelques instants. Mais pour Justin Trudeau, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent pour remporter une autre majorité? Je ne suis pas sûr qu'ils ont les réponses. Mais on a devant soi deux chemins. C'est-à-dire qu'il y a des gouvernements minoritaires par le passé qui, après avoir perdu une majorité, sont redevenus majoritaires à l'élection suivante.
Les conservateurs.
Et il y a l'élection, le modèle contraire où on passe d'une majorité à une minorité à un changement de parti. Ça, c'est l'histoire de Paul Martin.
Bon. Quand Marc Garneau dit les leçons apprises, je reviens là-dessus.
Oui.
J'ai l'impression, moi, que chacun des députés libéraux vont avoir leur propre analyse des leçons apprises. Il n'y aura pas de cohérence dans ce message-là.
Bien, il y aura des variations très régionales, certainement. La réalité, c'est que lorsque les députés se voient dans une place où les candidats se voient placés dans une situation où la campagne va mal, ils se mettent à faire une campagne locale, une campagne de terrain. Et là, ce qu'ils entendent, c'est peut-être plus anecdotique. Et là, on ramène ça au caucus et on dit « Dans mon comté, c'est ça que les gens m'ont dit. »
C'est ça.
Au central, on agit d'une manière un peu plus, disons, scientifique. On fait des sondages, on a des données, on tient des groupes de discussion. Donc, l'information est plus scientifique. Mais, tu sais, le feeling d'un politicien sur le terrain, là, ça a une valeur, ça aussi. Et souvent, au central, on a tendance à nier ça, à ne pas considérer ça en disant « ils ne savent pas de quoi ils parlent, nous, on a les chiffres, on a les vraies affaires ».
On est à moins de deux semaines de la composition du Conseil des ministres?
20 novembre, on saura qui sera... qui seront les prochains ministres de Justin Trudeau. La semaine prochaine, autre chose intéressante à souligner, Justin Trudeau va finalement rencontrer les chefs des autres partis. Évidemment, dans un contexte minoritaire, il faut obtenir l'appui de l'un ou de l'autre. Les trois grands partis peuvent appuyer Justin Trudeau, le faire survivre à un vote de confiance. Le Parti vert, c'est un cas d'exception, ils ont juste trois députés. Eux autres, ça ne marche pas, à moins que... calcul mathématique rapide, le NPD s'abstienne, puis là, le Parti vert obtient la balance du pouvoir pour un vote distinct.
C'est ça.
Mais bon. Donc, ça va être intéressant de voir est-ce qu'il y aura un gros remaniement ou est-ce que ce sera pas mal la même chose avec quelques changements plutôt cosmétiques. On fait de la place à deux ou trois nouveaux visages pour remplacer les deux qui ont perdu. Il y a plusieurs théories. Puis évidemment, ceux qui savent parlent pas, puis ceux qui savent pas parlent beaucoup.
Il y a eu deux femmes qui ont été sollicitées par M. Trudeau pour l'aider, si j'ai bien compris, dans la composition de ce conseil des ministres-là. c'est assez rare, mais Isabelle Huddon, une ambassadrice, donc les deux pieds dans la politique présentement, Anne McLellan, la femme à tout faire de M. Trudeau.
Ouais.
On nous dit que le rapport est complété?
Oui, le rapport serait complété, mais ça ne veut pas dire que Justin Trudeau va prendre ce rapport-là et le mettre en place dans son entièreté. Il y a d'autres considérations. Les choses vont bien. Évidemment, on est à deux semaines, là, puis là, il faut commencer aussi à penser au discours du trône. Et qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? La question qui n'est pas résolue, est-ce que le Parlement va revenir...
Avant Noël?
Avant Noël. Moi, je pense que oui. Je pense qu'on va revenir avant Noël pour une courte session de deux semaines, le temps d'adopter le discours du trône, premier test de confiance, et puis après ça, partir pour les fêtes et revenir seulement à la fin du mois de janvier. Mm-hmm.
Parce que discours du trône, si on le fait avant Noël, là, ça veut dire que si jamais, ça n'arrivera pas, là, mais je suis dans la politique fiction, là, si on décidait de défaire le discours du trône, de voter contre, mais, puis personne ne fait de coalition ou de vote...
Personne n'appuie Justin Trudeau, ça, personne ne le maintient au pouvoir.
Ça, ça veut dire que les partis d'opposition nous ramènent en élection pendant Noël, ou badon.
Ou badon, on se retrouve avec Andrew Scheer, premier ministre du Canada.
C'est ça.
Je pense que les deux théories ne s'avéreront pas, Rock. Je ne veux pas faire de faux espoirs à nos amis conservateurs qui nous écoutent présentement, là, mais Andrew Scheer ne sera pas premier ministre avant la fin de l'année, ça n'arrivera pas.
Il passe pas.
Surtout que Jack Mitzing, qui est le chef du NPD, lui a déjà dit à maintes reprises dans aucun contexte, il n'appuierait Andrew Scheer et le Parti conservateur. Alors, évidemment, la seule option qu'il reste pour le NPD, c'est d'appuyer le Parti libéral. Et c'est là que la partie de bluff va commencer. Est-ce que le NPD est en mesure d'obtenir des concessions dans le discours du trône? On l'a entendu pendant la campagne, il a mis de l'avant 6 à 8 priorités. Est-ce que Justin Trudeau va les mettre en place ou tout au moins les mentionner dans le discours du trône?
Il y a le deal breaker qui est le pipeline.
Mais c'est pas un deal breaker. Quand tu écoutes clairement ce que Jack Mitzing a dit pendant la campagne, il parle beaucoup d'environnement, de changement climatique, mais lorsqu'on lui posait la question directement, est-ce que Trans Mountain, c'est un deal breaker? Il ne répondait pas à cette question-là, patinait autour de la question, parce qu'il sait très bien que si... Le Parti libéral met le pipeline Trans Mountain dans le discours du trône pour faire plaisir à l'Ouest notamment, parce qu'on sait qu'ils ont des problèmes là-bas. Jack Mitzing n'est pas dans une position pour voter contre le discours du trône puis risquer une élection.
C'est ça.
Alors, on va probablement acheter le programme environnemental de lutte contre les changements climatiques du Parti libéral en cochant 2-3 cases de notre programme en disant « Mais ça fait référence à ce que nous, on propose et on va se boucher le nez et on va voter pour le discours du trône. »
Revenir au Conseil des ministres de M. Trudeau, on a beaucoup de discussions présentement sur est-ce que oui ou non on devrait avoir un lieutenant politique du Québec.
Il n'y en avait pas jusqu'à maintenant, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des lieutenants politiques des autres provinces? Non plus.
Non.
Est-ce que de céder à cette demande-là ou acquiescer à cette demande-là ferait en sorte qu'on répond présent à est-ce qu'ils ont compris le message du Québec, les spécificités, etc., etc. Puis M. Trudeau a toujours dit pourquoi avoir un lieutenant quand on a un général?
Exact.
C'était ça, sa réponse.
Qui vient du Québec, dans son cas, député de Papineau. C'est donc, ça. Lui se dit, ben, je suis au courant de ce qui se passe au Québec. J'ai pas besoin d'avoir un second violon. Même s'il avait nommé Pablo Rodriguez espèce d'organisateur en chef de la campagne au Québec, là, la réalité, c'est que il y a une tradition que le gouvernement, le gouvernement au pouvoir, les partis d'opposition aussi le font, se nomment un lieutenant québécois à cause de la spécificité québécoise, à cause des besoins de compréhension. Et au Parti libéral, ça a créé des remous dans le passé. Rappelle-toi quand Denis Coderre était lieutenant québécois de Michael Ignatieff, a démissionné avec fracas en disant
Toronto.
Le Parti libéral est géré de Toronto. Or, ce qu'on a entendu depuis la fin de la campagne, c'est les militants québécois, les députés québécois sous le couvert de l'anonymat la plupart du temps, dire la campagne a été gérée par des gens de Toronto qui ne comprennent pas le Québec et c'est pour ça qu'on s'est ramassé comme on s'est ramassé.
Rappelons-nous la chanson?
Ben oui, la traduction.
C'est le symbole.
Le Google Translate qui a été fait par le groupe de Strumbella, ce que j'aime beaucoup par ailleurs, mais là-dessus...
Lève la main.
Les artistes... Ouais, c'est ça, lève la main. Les artistes qui se mettent la main dans la politique, des fois, ben, ils se la font mordre.
Ouais. On va parler d'Andrew Scheer. Lui a eu un caucus.
Un long caucus.
Mais que d'élus.
Que des élus.
Fait, c'est du monde de bonne humeur. En tout cas, moins de mauvaise humeur que quelqu'un qui a perdu son comté ou qui pensait d'être là. Puis, prenons, tu sais, il n'y avait pas de Sylvie Fréchette dans le meeting. Là.
Non, il n'y avait pas de Sylvie Fréchette, donc les candidats des faits n'étaient pas là. Ce Ceci dit, c'est quand même des gens qui pensaient peut-être accéder au pouvoir, qui pensaient peut-être battre Justin Trudeau, puis qui n'étaient pas contents nécessairement.
C'est ça.
Ça a quand même duré 7 heures, ce caucus-là, là, 3 heures et demie de plus que prévu. J'ai participé à plusieurs caucus, toi aussi. Quand un caucus dépasse 3 heures, là, ça commence à graffiner d'un coin. Là. Et je pense qu'Andrew Scheer a passé un mauvais quart d'heure. Ceci dit, il a passé son premier test de confiance. Les députés ont voté pour le maintenir en poste jusqu'à maintenant. La décision a été donnée, telle que prévue par les statuts du Parti conservateur, aux militants qui se présenteront au congrès du Parti conservateur à Toronto au printemps 2020.
Oui, mais ça, c'était prévu. Là.
C'était prévu, sauf que les députés auraient pu déclencher immédiatement une révision du leadership telle que prévue par la loi de la réforme qui était adoptée. Là, c'est un député conservateur, Michael Chong, qui avait fait adopter ça, qui permet aux députés un certain pouvoir par rapport au chef.
Je comprends.
Ce test-là, écoute, je veux te dire, là, si les gens pensaient que le caucus conservateur allait être en campagne ou en cabale contre Andrew Scheer, le vote, ça n'a même pas été proche. Tu sais, il n'y a même pas un député sur 5 qui voulait que Andrew Scheer s'en aille. Puis ça, c'est un vote, évidemment, à main levée.
Ça prend
plus de courage pour voter comme ça.
Pas mal.
Mais si les gens étaient sérieux, c'est là qu'il fallait agir. Parce que dans un contexte minoritaire, le temps compte.
Est-ce que les sénateurs étaient là?
Ah, ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas vérifié si les sénateurs étaient là.
Parce qu'il y a des sénateurs qui ne le veulent plus, là.
Ben
il y a
oui.
des sénateurs qui veulent que tout l'entourage change.
Oui, effectivement.
Mais l'hiver est arrivé plus de bonheur dans ce caucus-là.
Explique-toi.
Ben, on a sorti les pelles pour pelleter par en avant. Puis la tempête, elle s'appelle John Baird.
Oui, John Baird qui est en charge d'étudier ce qui s'est passé pendant la campagne. Tu sais, ces fameuses commissions d'enquête internes. Moi, j'ai des gros doutes sur l'utilité de ça, sauf pour calmer la grogne, pour montrer qu'on gagne du temps, on veut démontrer qu'on prend la chose au sérieux et qu'on veut apprendre de ce qui s'est passé. Sauf que, est-ce que Andrew Scheer a appris? Cette semaine, il y a eu une mêlée de presse après le caucus. Et là, on a posé la question à Andrew Scheer, la question qui fait jaser beaucoup. Est-ce que vous croyez que l'homosexualité est un péché?
Voyons donc. Ils ont posé ça.
Ils ont posé ça comme question.
Pourquoi?
Parce que les gens pensent que les croyances d'Andrew Scheer vont interférer avec sa politique publique.
Mais ça l'a été. Ça l'a interféré.
Et voilà.
OK.
Et à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas Andrew Scheer lorsqu'il dit « Je vais respecter les droits de tous les Canadiens. Je vais défendre les droits des LGBTQ comme premier ministre. »
Puis sa réponse?
Sa réponse a été...
Est-ce que c'est un péché?
Il n'a pas répondu non.
Voyons donc.
Il n'a pas répondu non. Il a répondu qu'en tant que premier ministre, ses croyances personnelles...
Ben, voyons.
Alors, voilà tout la problématique d'Andrew Scheer qui a été jouée pendant la campagne, exploitée par le Parti libéral et qui refait surface. On n'a pas appris du côté d'Andrew Scheer et il se retrouve dans il se retrouve coincé à cause de ses croyances religieuses et de son refus d'embrasser ce concept que l'homosexualité, les droits des gays et lesbiennes ne doivent pas être considérés par la religion comme un péché. Et ça va continuer de le hanter.
Mais plus que le hanter, quand? Ça le discrédite comme premier ministre?
Parce que sa réponse qui passe partout, qui est la même, qui était la même pendant la campagne, après le débat TVA, là, ça passe pas la rampe.
Mais non.
Les gens ne le croient pas.
Mais à juste titre. Puis de toute façon, au surplus, quand on vote, ultimement, là, parce que des programmes politiques, tu le sais comme moi, ça change. On va augmenter les impôts un petit peu, on va y baisser un petit peu. Tu sais, là, des tweets...
Les circonstances changent, ça évolue, puis tu vois des opportunités pour mettre en place quelque chose que tu n'avais pas prévu.
L'important, c'est les valeurs de l'individu et du parti. C'est pour ça que je fais un parallèle au Parti libéral du Québec. Au-delà des chefs, au-delà des programmes, au-delà des circonstances, au-delà du goût du jour, au-delà de l'employé du mois, il y a un fascicule qui existe chez les libéraux qui dit « Voici les valeurs libérales. Les 7 valeurs libérales de Claude Ryan. Voici là, what do we stand for? Signer une carte de membre libéral, ça veut dire que tu adhères à ces principes-là, à ces valeurs-là. Après ça, c'est que ça s'actualise de différentes façons, dépendamment du contexte. Mais par exemple, appartenance au Canada, valeur première. Bon, bien, si fondamentalement, dedans de toi, t'es contre ça, signe pas la carte. Bien, le problème avec les conservateurs, c'est... Ça veut dire quoi être conservateur si ton chef dit, moi, là, des valeurs de respect des individus, puis de respecter l'orientation sexuelle, puis etc., etc. Moi, j'y crois pas pantoute, mais je suis conservateur pareil. Je veux dire, c'est au fondamental, cette affaire-là.
Et c'est ça que les gens voient quand Andrew Scheer répond des choses comme ça. Et c'est ce que les députés qui ont parlé publiquement et les organisateurs, les vieux de la vieille au sein du Parti conservateur disent. Il faut que ça change notre vision des droits LGBTQ. Ça peut pas être une réponse légale, disant « mais les droits existent et comme premier ministre, je vais respecter les droits ». Parce que les gens achètent pas ça.
Non, non. Ça sonne phony. En anglais, on dit phony. Ça phony. C'est, pour être premier ministre, je vais me boucher le nez sur mes propres valeurs. Ça marche pas.
C'est un échappatoire. Ceci dit, je vais prendre la question à l'envers. Est-ce que c'est une question qu'on aurait posée à un autre chef politique qu'Andrew Scheer? Parce qu'ils sont tous religieux.
Ouais.
Okay. Ils sont tous religieux. Okay. Hein, ils sont tous déclarés. Alors, les croyances religieuses devraient être traitées également. Il y a une... la protection des droits inclut le droit à la religion. Mais dans le cas d'Andrew Scheer, on lui a posé la question.
Parce qu'on savait bien la réponse.
Ben, c'est ça. Et de l'autre côté, ben, il y a un journaliste qui a écrit aux différents chefs pour leur poser la même question en se disant ben, « C'est vrai que c'est pas juste, on l'a jamais demandé à Justin Trudeau, à Jagmeet Singh, à Elizabeth May. » Ils ont répondu non. L'homosexualité n'est pas un péché.
Fini.
Ce qui est la bonne réponse.
Ben, c'est fini.
Si Andrew Scheer répond non, on passe à autre chose, on passe à notre appel.
C'est ça.
Là, on va continuer d'en parler.
Très intéressant. Merci beaucoup. Carl Bélanger, notre analyste politique.
Salut.